Nous allons nous intéresser à l'enjeu représenté par les ressources naturelles au Proche et au Moyen-Orient en nous concentrant sur l'eau et sur le pétrole. Dans une première partie, nous allons nous intéresser aux enjeux de l'eau dans un espace aride. Dans l'ensemble, le Proche et le Moyen-Orient sont des espaces arides. Seules quelques régions montagneuses jouent le rôle de château d'eau pour l'ensemble de cet espace. Il s'agit bien sûr des principales chaînes montagneuses de cette région, le Taurus, qui se trouve au sud-est de la Turquie, le Liban, qui est à l'origine une chaîne de montagnes avant de donner son nom à un pays, mais il s'agit également de montagnes plus lointaines, situées en Éthiopie ou en Afrique centrale. De ces régions montagneuses, plus arrosées, descendent des fleuves indispensables à l'approvisionnement en eau des plaines voisines. Le Tigre, l'Euphrate descendent du Taurus, l'Oronte descend du Liban, le Nil va descendre, lui, des montagnes d'Afrique centrale et d'Éthiopie. L'eau fournie par la pluie et par les fleuves, qualifiés de ressources conventionnelles, n'est pas toujours suffisante pour assurer l'approvisionnement de certains pays. D'autres sources d'approvisionnement sont alors utilisées. Il s'agit par exemple de l'utilisation de nappes phréatiques fossiles, c'est-à-dire de nappes phréatiques dont l'eau ne se renouvelle pas, c'est-à-dire que l'eau qu'elle contient est tombée à des périodes très loin dans l'histoire, et le climat étant devenu plus sec entre-temps, elles ne reçoivent pas de nouveaux apports d'eau. Parmi les autres moyens non conventionnels, lorsque les moyens financiers et technologiques le permettent, il y a le dessalement de l'eau de mer. Ces ressources non conventionnelles assurent une part croissante des besoins en eau des pays qui ont les moyens de les financer. Ainsi, la station de désalinisation d'Ashkelon en Israël assure à elle seule l'approvisionnement d'un quart de la population du pays. Au Qatar, c'est 99% de l'approvisionnement en eau qui provient du dessalement de l'eau de mer. En dehors de la Turquie, qui bénéficie théoriquement de plus de 3 000 mètres cubes d'eau par an et par habitant, la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient sont dans ce qu'on appelle une situation de stress hydrique, voire de pénurie. Des pays comme l'Égypte disposent à peine de 800 mètres cubes d'eau par habitant et par an. En France, la quantité d'eau disponible théoriquement par an et par habitant est de 3 300 mètres cubes. L'Égypte, mais aussi la Syrie et l'Irak, sont entièrement dépendants pour leur approvisionnement en eau de fleuves qui prennent leur source à l'étranger et dont le contrôle devient un enjeu géopolitique majeur dans un contexte d'augmentation des besoins. En effet, la croissance démographique accentue les besoins en eau. L'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient connaissent un accroissement naturel supérieur à la moyenne mondiale, allant au minimum de 1,3% par an en Turquie et en Iran, jusqu'à 7, voire 9% par an au Qatar ou dans le sultanat d'Oman. La population de cette région ne cesse donc de s'accroître, accroissant par la même occasion la pression sur les ressources en eau. Mais le développement économique est également une source de consommation supplémentaire d'eau. Certains pays connaissent un décollage économique qui cause une hausse du niveau de vie de la population. En dehors d'Israël, seule économie développée dans la région, c'est le cas de la Turquie, qui est une puissance émergente, et de pays pétroliers à faible population comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou Bahreïn. La hausse du niveau de vie entraîne automatiquement une hausse de la consommation en eau. Un Israélien consomme ainsi 375 mètres cubes d'eau par an, contre 160 pour un Palestinien. Quant au Qatari moyen, il consomme 400 litres d'eau par jour. En France, la consommation moyenne d'eau par jour et par personne est de 275 litres. L'eau est devenue un enjeu géopolitique majeur dans les conflits régionaux. L'exemple d'Israël et de ses voisins en est une bonne illustration. Les conflits entre Israël, les États voisins et les Palestiniens sont indissociables de la question de l'eau. Les principales ressources en eau de ce territoire qu'on appelle la Palestine, à savoir donc l'État d'Israël et les territoires palestiniens, sont d'une part les eaux du Jourdain, un petit fleuve qui descend des monts du Liban et qui n'a pas un gros débit, puisque en gros on peut comparer le débit du Jourdain au débit de rivières de Haute-Savoie comme l'Arve, le Chéran ou le Fier. D'autre part, le pays peut utiliser les nappes phréatiques, principalement situées d'ailleurs dans une région appelée la Judée-Samarie, que l'on appelle également la Cisjordanie. Dans le plan de partage de l'ONU de 1947, qui donne naissance à un État juif et à un État arabe, ces ressources sont largement en dehors du territoire de l'État juif, cantonnées à des plaines arides. Lors des guerres israélo-arabes de 1948-49 et de 1967, cette guerre-ci on l'appelle la guerre des six jours, Israël va faire la conquête de l'ensemble de la rive ouest du Jourdain, ainsi que du plateau syrien du Golan qui se trouve au sud-est de la Syrie, à la frontière avec Israël, améliorant ainsi son contrôle sur les ressources en eau régionales. En effet, l'ensemble des sources du Jourdain et des rives du lac de Tibériade passe alors sous le contrôle d'Israël. Aujourd'hui, 86% du débit du Jourdain à la sortie du lac de Tibériade est capté par Israël, puis distribué jusqu'au sud du pays par un système de canalisation permettant l'agriculture irriguée jusque dans le désert du Négev. En aval, l'implantation de colonies israéliennes le long du Jourdain interdit aux Palestiniens de Cisjordanie d'accéder au fleuve. Dans les territoires occupés, depuis 1967, l'exploitation des nappes phréatiques est presque exclusivement réservée aux colonies israéliennes. Les Palestiniens se voient quasiment interdire le droit de forer des puits et sont donc obligés de se contenter des précipitations pour leur approvisionnement en eau. La question du partage de la ressource en eau est l'une des pierres d'achoppement dans la résolution du conflit israélo-palestinien. La ressource pétrolière est également un enjeu majeur dans le cadre des ressources naturelles. On peut considérer que c'est une véritable manne dans une région qui connaît globalement un retard de développement. Cette ressource est aussi inégalement répartie que les ressources en eau. Quelques grands gisements sont partagés par un petit nombre de pays. Dans l'ensemble, le Moyen-Orient représente à lui tout seul 40% des réserves mondiales de pétrole. L'essentiel de ces gisements se partage entre les pays du Golfe arabo-persique, en particulier l'Arabie saoudite, 12% des réserves mondiales, l'Iran, 5% des réserves mondiales, les Émirats arabes unis, l'Irak et le Koweït, 3% chacun. Les réserves pétrolières concernent donc principalement des pays désertiques et relativement peu peuplés. Inversement, la majorité des pays de la région sont privés des ressources pétrolières. C'est le cas en particulier des grandes puissances démographiques que sont la Turquie et l'Égypte, respectivement 75 et 85 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population du Proche et du Moyen-Orient à eux deux. Le pétrole suscite également les convoitises des grandes puissances. Lorsque les gisements pétroliers moyen-orientaux commencent à intéresser l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, ils passent sous le contrôle de sociétés principalement britanniques, mais aussi allemandes. Après le premier conflit mondial, les entreprises pétrolières américaines font-elles aussi irruption au Moyen-Orient? Le pétrole moyen-oriental est alors aux mains des sept sœurs, dites aussi les majors, les sept principales entreprises pétrolières mondiales. La liste est la suivante: la Standard Oil of New Jersey, qu'on appelle aujourd'hui ExxonMobil, Chevron, Texaco, Gulf Oil et Mobil. Toutes ces entreprises sont américaines. Nous avons également l'Anglo-Persian Oil Company, futur British Petroleum, BP, et Royal Dutch Shell, BP étant britannique et Royal Dutch Shell étant à moitié britannique et à moitié hollandaise. l'influence des multinationales pétrolières occidentales s'accroît encore, au profit des Américains, avec les accords du Quincy en 1945, qui ouvrent le pétrole saoudien aux entreprises américaines en échange de la protection politique des États-Unis sur le Royaume d'Arabie Saoudite. Le Quincy est le nom du navire de guerre américain sur lequel le roi d'Arabie Saoudite et le président Roosevelt ont signé ces accords. Les grandes firmes pétrolières exploitent donc le pétrole de l'Arabie Saoudite et versent des redevances au gouvernement saoudien qu'on appelle des royalties. Ce schéma se retrouve dans tous les autres pays producteurs de pétrole. Or, les royalties touchées par les gouvernements moyen-orientaux restent faibles. Le gouvernement iranien ne touche ainsi que 16% des bénéfices de l'exploitation du pétrole sur son territoire dans les années 50. À partir de la fin des années 40, on assiste à la contestation par une partie des gouvernements moyen-orientaux de la domination des Sept Sœurs. Le gouvernement iranien est le premier en 1948 à essayer de nationaliser sa production pétrolière. C'est un échec. La création de l'OPEP en 1960, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, dans laquelle les pays moyen-orientaux sont dominants, va permettre à ses membres de réguler le cours mondial du pétrole pour s'assurer des revenus réguliers. Si les entreprises occidentales ont vu leurs bénéfices rognés au profit de gouvernements moyen-orientaux, elles restent cependant incontournables sur le marché du pétrole moyen-oriental. Néanmoins, le pétrole est devenu une source de rayonnement géopolitique. Certains pays exercent ainsi une influence clairement disproportionnée par rapport à leur poids démographique. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, qui joue un rôle diplomatique central au Proche et au Moyen-Orient, car les ressources financières qu'elle tire de l'exploitation pétrolière lui permettent de financer de nombreux mouvements politiques, l'autorité palestinienne par exemple, voire de financer certains gouvernements, le gouvernement yéménite, le gouvernement jordanien, dépendent ainsi largement des versements d'argent du gouvernement saoudien. C'est le cas également du Qatar, qui a profité de l'exploitation des ressources de gaz qui se trouvaient sur son territoire pour développer une influence importante dans la région et essayer de concurrencer l'Arabie Saoudite.